Très heureux d'être avec vous ce matin. Ils ont fait un test. Ils m'ont passé aux enfants la semaine dernière. Les enfants ont dit « C'est bon, Florian, tu peux l'inviter pour les adultes. » Je suis très heureux, vraiment très heureux d'être avec vous ce matin. Ça va bien? Ouais. J'aime ça venir à Châteauguay parce que je trouve qu'il y a une méchante ambiance ici. Il y a une belle ambiance ici. Je le savais. Ce matin, très heureux d'être là. La dernière fois, j'étais venu faire une annonce et tout le monde était enthousiaste juste par une annonce. Je me suis dit, man, quand je vais venir prêcher, ça va être fou ici, ça va être incroyable. Donc, je suis vraiment excité d'être là. Je suis excité parce qu'il se passe plein de belles choses ici, que ce soit au niveau des rénovations, des gens qui viennent, qui sont là. C'est juste waouh, c'est bénissant d'être là. Et je suis vraiment béni. Merci pour l'invitation, pasteur Florian et Julie. Est-ce qu'on pourrait donner une main d'acclamation pour pasteur Florian et toute l'équipe qui est là, qui fait un travail extraordinaire? Je suis juste béni, ils sont là, il faut avancer l'Église et vous êtes là avec eux et c'est juste waouh, et je suis juste béni d'être là. Alors merci d'être avec nous ce matin, j'ai 1h30 pour prêcher, c'est une chance incroyable pour moi. Tu sais, les prédicateurs, on n'a pas beaucoup de blagues, on en a 3 puis on les sort à chaque fois. Mais c'est ça. Ce matin, blague à part, je veux vous bénir. Qui veut être béni ce matin? Yes, je veux vous bénir. Et ce matin, on va parler de bénédiction. On veut parler de bénédiction, mais pas de n'importe quelle bénédiction. Ce matin, je vais vous parler de la plus grande des bénédictions. Parce que je crois qu'il y a il y a des bénédictions, mais je pense qu'il y a comme des stages de bénédiction. Tu sais? Et ce matin, je vais vous parler de la plus grande des bénédictions. Je ne sais pas pour vous quelle serait la plus grande des bénédictions. Peut-être vous y réfléchissez, peut-être que dans ma tête, c'est... tu savais. Je ne sais pas ce que ça serait pour vous. Peut-être pour certains, ce serait une nouvelle voiture. Pour d'autres, ça serait d'avoir peut-être un enfant, je ne sais pas. Pour d'autres, c'est encore la santé. Et quand la santé va, tout va. Vous la connaissez? Ok, c'est bon. Je voulais voir si vous suiviez. Quand la santé va, tout va. Ça me fait penser à Astérix, je ne sais pas pourquoi. Pour ma femme, que j'ai mariée il y a 12 ans de cela, une belle Québécoise, parce que tout le monde sait que les plus belles femmes sont au Québec. Right? Amen. Good. Pour elle, la plus grande des bénédictions, ça serait d'avoir un deuxième chat. Je sais, vous êtes déçus. Vous attendiez à quelque chose d'incroyable. Mais non, pour elle, ça serait d'avoir un deuxième chat. Et elle s'essaye, et je dis non, pour l'instant, priez pour moi. Je tiens bon jusqu'à date. Mais ce serait d'avoir un deuxième chat. Pour d'autres, ce serait de l'argent. Certains s'imaginent recevoir un don d'argent. Quelqu'un, un nom quelque part, une matante, tu sais, qui serait décédée et que, incroyable, on vous a retrouvé, c'est vous, et elle aurait 1,7 million à vous donner. Ok, 1,4 finalement. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, ou peut-être on s'attend à un héritage, et peut-être vous avez déjà reçu comme moi un courriel d'un prince africain qui malheureusement ne connaît personne d'autre que vous et aurait un héritage à vous léguer. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, vous l'avez reçu peut-être même plusieurs fois, il cherche vraiment à vous trouver, il faudrait vraiment que vous répondiez parce qu'il a vraiment plusieurs millions à vous donner et il pense que vous êtes la meilleure personne pour gérer ça. Gloire à Dieu. Yes. Mais c'est une escroquerie, ok? C'est faux. C'est juste pour avoir vos coordonnées bancaires. Et en parlant d'escrocs, je ne sais pas si vous regardez des séries sur Netflix ici. Est-ce qu'il y en a qui connaissez Netflix? Ok, d'accord. Je ne sais pas si vous regardez des séries Netflix. Moi, ça m'arrive. Je pêche encore. Mais dernièrement, je regardais la série Lupin avec Omar Sy. Je ne sais pas s'il y en a qui l'ont vu, qui en ont entendu parler. Et le slogan de l'émission, c'est vous voyez, mais vous ne regardez pas. On voit, mais on ne regarde pas. Ils ont fait toute une campagne là-dessus où c'était Omar Sy lui-même qui allait dans le métro poser les affiches, etc. Et tout le monde le voyait faire en train de poser les affiches, mais personne n'a regardé. Personne n'a remarqué que c'était lui qui était en train de poser les affiches. Et j'aimerais voir si vous êtes perspicace, si vous êtes observateur ici à Nouvelle-Vie Châteauguay, on va mettre une vidéo, et j'espère que vous parlez tous anglais parce que c'est en anglais, mais on va voir, ok, on va voir si vous observez bien, si vous voyez, mais surtout si vous regardez. Alors, on peut lancer la vidéo à l'arrière. Et c'est en anglais.
This is an awareness test.
Ceci est un test d'observation.
How many passes does the team in white
Combien de passes l'équipe en blanc va-t-elle se faire?
Go!
The answer
La réponse
is 13.
Est 13. Qu'il avait?
But did you see the moonwalking bear?
Est-ce que vous avez vu le bear qui faisait du moonwalk en arrière?
Go!
Faites attention aux cyclistes quand vous conduisez. ouais, c'est pour les cyclistes. Et j'aimerais vous parler d'un passage que j'ai lu des dizaines de fois, où je voyais, mais je ne regardais pas. Ce passage parle d'une histoire d'héritage. C'est le passage du fils prodigue, et j'ose croire que je vais vous parler de ce passage d'une manière que vous n'avez encore jamais entendue. Rien que ça. Alors, on va lire ensemble l'histoire du fils prodigue qui se trouve dans Luc 15. Jésus dit encore, « Un homme avait deux fils. » Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part du bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qui l'envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il se dit « Combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. » Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à se réjouir. Or le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit, « Ton frère est de retour, et parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé, ton père a tué le veau gras. » Il se mit en colère et ne voulut pas rentrer. Son père sortit et le pria d'entrer, mais il répondit à son père, « Voici, il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. » Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir parce que ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. Amen. C'est bon de lire la Bible, vous avez lu votre chapitre pour la journée, pas besoin de le lire à la maison. J'ai une question pour vous. D'après vous, qui a saisi le véritable héritage? Qui s'est emparé du véritable héritage? Le jeune frère? Le grand frère? Ou les deux? Qui pense le jeune frère? Qui pense le grand frère? Qui pense les deux? Qui sent venir le piège? D'accord. La réponse, c'est aucun. Aucun n'a eu l'héritage principal. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas été réclamé. L'héritage n'a pas été réclamé. Et il y a deux scénarios pour lesquels un héritage n'est pas réclamé. Soit parce qu'il est refusé, très souvent en cas de dette, etc. Soit parce qu'il n'est pas connu. Et souvent, ce que vont faire les firmes, etc., c'est qu'elles vont essayer de chercher les héritiers, etc. Et peut-être que c'est vous, sait-on jamais. Mais ce sont les deux scénarios. Soit il est refusé, soit il n'est pas connu. Mais de quel héritage parle-t-on exactement? Voici l'héritage. Luc 15, verset 31. « Mon enfant, lui dit le Père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. » Voyez-vous, là-dedans, il y a un héritage principal, il y a un héritage secondaire. Les deux sont passés à côté de l'héritage principal. Et cet héritage principal, le voici. Le Père dit, tu es toujours avec moi. Et tout ce que j'ai est à toi. S'il y a un « et », ça veut dire qu'il y a quelque chose avant. En fait, l'héritage principal, c'est la présence du Père. L'héritage secondaire, ce sont les biens du Père. Les deux sont passés à côté de l'héritage principal. Tu es toujours avec moi. L'héritage principal, c'était sa présence. Un l'a refusé. Quand le jeune frère est parti, a pris son héritage, il l'a refusé. Et à l'époque, quand on faisait ça, quand on réclamait notre héritage, c'était la pire des offenses. C'est comme si on disait, mon père, pour moi, tu es mort. Tu n'existes plus, c'est fini. Et l'autre ne l'a pas connu, ne l'a pas compris, ou peut-être même l'a pris pour acquis. Et n'a pas réclamé sa part d'héritage, parce qu'il n'avait pas saisi ça. Et souvent, en tant que chrétien, on peut prendre pour acquis la présence de Dieu. En faisant comme le grand frère, en se comparant aux hommes. Mais pourquoi lui, il a ça? Pourquoi, elle, tu as donné ça, Seigneur? On regarde ce qu'on n'a pas. On se plaint à Dieu et qu'on est bon là-dessus. Le chialage de Dieu, oh Seigneur! Et on passe à côté de la bénédiction. Qui est spécialiste du chialage à Dieu ici? Je lève mes mains. Je me confesse. Seigneur, pourquoi ça? Pourquoi? Le Père dit, tu es toujours avec moi. Et c'est bizarre, ça paraît incompréhensible. Pourquoi il dit, tu es toujours avec moi? En général, je ne sais pas si c'est une bénédiction d'être spécialement tout le temps avec ses parents. Demandez à un parent d'ado, imaginez un père qui parle à son ado, « Mais je suis toujours avec toi !» Ouais, mais c'est bien ça le problème. C'est bizarre, c'est quand même incompréhensible, on se pose la question « Pourquoi ?» Et mais pourtant, c'est ça. Et ça fait écho à la promesse de Jésus qui dit « Je suis tous les jours avec vous jusqu'à la fin du monde. Tu es toujours avec moi. » En fait, Dieu est présent depuis le début. Il se mouvait au-dessus des eaux au moment de la création. Il était dans le jardin d'Éden en communion avec Adam et Ève. Le ciel et la terre étaient réunis dans le jardin d'Éden. Ils ont péché et ont été chassés, pas spécialement du jardin d'Éden, mais de la présence de Dieu. Puis souvent on voit le jardin, tout ça, mais parce que le jardin était le symbole aussi de la présence de Dieu. Il était présent dans la nuée pour diriger le peuple. Il était présent aussi dans l'Arche de l'Alliance. Il était présent dans le temple que Salomon a construit. Mieux encore, il est descendu du ciel et s'est incarné en Jésus. D'ailleurs, l'autre nom de Jésus, c'est Emmanuel, qui veut dire Dieu avec nous. Ce n'est pas Dieu nous bénit, c'est Dieu avec nous. Dieu avec nous, Emmanuel, Dieu avec nous. Et un jour, on sera au ciel dans sa présence totale. Amen? Yes! Mais en attendant, nous avons accès à sa présence, là, disponible, maintenant, aujourd'hui, 24 heures sur 24, lundi prochain. Et quand vous appellerez Dieu, vous ne tomberez pas sur « Votre appel est important pour nous ». Non, Dieu est là, disponible, présent. Et son héritage est présent pour nous, à nous de le réclamer. Tu ne vas pas bien, va dans sa présence. Tout va bien pour toi, va dans sa présence. En tout moment, va dans sa présence. Il est lundi. Il est 18h30, tu as fini ton repas, tu ne sais pas quoi faire, tu cherches quelque chose à regarder. Va dans sa présence. Dans sa présence, Dieu veut nous bénir, Dieu veut nous parler, Dieu veut apaiser nos douleurs, Dieu veut nous guérir, Dieu veut nous restaurer, Dieu veut nous faire du bien, Dieu veut nous reprendre aussi. Dieu veut nous corriger pour aller dans le bon sens de la marche. Dieu veut nous donner sa paix, Dieu veut nous donner sa joie et Dieu veut déverser son amour en nous. Tout ça dans sa présence, il y a tout dans sa présence. Et tous ceux qui souffrent, que ce soit à cause de la maladie, peut-être du deuil, même d'un divorce, savent très bien que ce qu'on a besoin à ce moment-là, quand on vit ces moments difficiles, ce n'est pas d'une nouvelle voiture. Ce n'est pas d'une nouvelle bébelle. Ce qu'on a besoin dans ces moments-là, quand on souffre, c'est l'amour, le réconfort et la présence des autres. Vrai ? C'est ça qu'on a besoin. On a besoin de la présence des gens, on a besoin de la présence. Et on a besoin de la présence de Dieu qui vient nous combler. Je vous assure que quand vous dites à quelqu'un qui est dans le deuil, écoute, lâche pas, je vais te donner un 10 000 $, bon, ça peut peut-être aider, on est d'accord. Mais c'est la présence de Dieu qui va venir faire du bien. Je n'ai pas besoin d'une bénédiction particulière. Je n'ai pas besoin de quelque chose de matériel. J'ai besoin de la présence de Dieu dans ma vie qui vient me donner sa paix, me remplir de ce que j'ai besoin. Et honnêtement, il n'y a rien de mieux qu'être dans la présence de Dieu. Honnêtement, on n'était pas bien tout à l'heure avec Jérémie. C'était bon. C'était juste bon. Moi, je pourrais rester comme ça des heures. C'est vraiment trippant. Moi, j'aime ça, des soirées de louanges où on est juste dans la présence de Dieu et on loue et on l'adore. Et pourquoi on aime ça? Parce qu'on a été créé comme ça et on a été créé pour ça, pour louer et adorer Dieu. Et c'est pour ça que quand on reçoit la louange de quelqu'un, ça nous met mal à l'aise. Parce qu'on n'a pas été créé pour ça. On a été créé pour donner la gloire et la louange à Dieu. Et vous savez pourquoi Satan déteste vous entendre louer? Savez-vous pourquoi le diable déteste vous entendre louer? Parce que vous lui rappelez ce qu'il ne peut plus faire. Satan était le chef des chantres avant. Vous lui rappelez ce qu'il ne peut plus faire. Et ça, c'est fort. C'est vraiment fort. C'est un héritage qui est déjà disponible. Et finalement, la présence de Dieu, c'est un avant-goût de ce qu'on va vivre au ciel. Être en permanence dans sa présence. Mais n'attendons pas. Okay, il est possible pour chacun de nous de nous emparer de cet héritage, d'entrer dans la présence de Dieu et de vivre le ciel sur la terre. Je crois que la présence de Dieu, littéralement, c'est le ciel sur la terre. Et en fait, la venue de Jésus, alors que Jésus meurt à la croix et que le voile est déchiré, n'avait d'autre but ultime que de nous permettre d'accéder à sa présence. C'était ça le but de la venue de Christ. C'est que le voile se déchire et qu'on puisse avoir accès à la présence de Dieu. Dieu est le Dieu de la présence. C'est son plus grand cadeau et le plus grand des héritages. Cet automne, alors que tout recommence, en plus les enfants ont repris ici les activités, il y a plein de choses qui se passent en automne, prenons le temps de venir réclamer notre héritage. Il y a un héritage qui est là, qui est disponible, et très souvent, on ne l'obtient pas parce qu'on ne le demande pas. Demandez et vous recevrez. Allons dans sa présence. Vous attendez et vous priez que Dieu vous bénisse. La vérité, c'est qu'il vous a déjà béni. Il vous a déjà béni. Ne serait-ce que par le salut en Jésus-Christ, mais ce n'est pas juste le salut, c'est sa présence en continu qui est là, qui est disponible pour nous. Elle est déjà là. Dieu vous a déjà béni, il faut juste la réclamer. En fait, c'est un peu la PCU divine. Sa présence céleste unique. Peut-être qu'il y en a, vous allez me dire, écoute Stéphane, t'es en retard, maintenant c'est la PCRE. Ouais, ça marche aussi. C'est une présence céleste renouvelable éternellement. J'ai travaillé fort là-dessus, j'ai passé la nuit là-dessus. Et alors qu'on parle de PCU et d'argent, vous remarquerez que Dieu n'a jamais promis la richesse. Dieu n'a jamais promis la richesse. Ça ne veut pas dire que Dieu ne donne pas des conseils, etc. Puis des choses, si on les suit, ça va bien aller pour nous, on est d'accord là-dessus. Mais Dieu n'a jamais promis la richesse. Par contre, ce qu'il a promis, c'est sa présence. Je suis tous les jours avec vous jusqu'à la fin du monde. Je serai avec toi. Je ne t'abandonnerai pas. Ce n'est pas je te rendrai, je ne t'abandonnerai pas. Et est-ce que ce n'est pas ça, au fond, la vraie richesse? La présence de Dieu. Je me rappelle, quand j'étais petit, moi, j'ai grandi à l'église, et on faisait avec les enfants des chasses au trésor. On aime ça, les chasses au trésor. Et moi, quand je joue, je ne sais pas pour vous, mais moi, ça, c'est moi. Moi, quand je joue, ce n'est pas pour participer. Okay, moi, quand je joue, c'est pour gagner. Et en fait, quand je joue à des jeux, des fois, ça frustre ma femme et mes amis parce que je gagne souvent aux jeux de société, etc. Mais en fait, pour moi, c'est ma façon de vous respecter. Si je vous laisse gagner, c'est comme, ouais, mais t'as pas vraiment gagné. C'est parce que... Donc moi, quand je joue, c'est pour gagner, ok? Moi, je suis compétitif et il faut que Dieu travaille mon cœur, mais c'est comme ça. Je suis compétitif, mais ça sert dans le ministère parce que je suis compétitif avec les âmes des gens. Moi, je suis pour que Satan perde total et qu'on puisse gagner le plus grand nombre d'âmes. Amen? Yes. Fait que... On jouait à un jeu, c'est une chasse au trésor, et on devait trouver des indices, etc., réussir des énigmes pour trouver une clé, etc., et il y avait un coffre à ouvrir. Et la première équipe qui arrivait à trouver la clé allait pouvoir ouvrir le coffre et gagner le prix qu'il y avait dedans. Alors bien sûr, il y a un prix à gagner, il y a un coffre. Watch my ben aller. Fait que, let's go, on y va, on court, let's go, on va chercher les trucs, on va sous les racines d'arbres, on défait les trucs, oh, il y a un indice, etc. On fait tout ce qu'il y a à faire, on obtient enfin le code qu'il faut faire pour déverrouiller le cadenas, et là, on ouvre et... La monitrice sort ce qu'il y a dedans, et elle fait, oh, un papier. Jésus! à ce moment-là, je me suis dit, mais quelle arnaque. Quelle arnaque. Moi, je jouais pour des chocolats, de l'argent, whatever. Et elle sort, c'est Jésus. Et la vérité, c'est que c'était vrai. Le vrai cadeau, c'est Jésus. Le vrai cadeau, c'est sa présence. Et je crois que beaucoup de gens sont déçus de l'Église et de l'Évangile quand on leur a présenté l'Évangile de la bénédiction au lieu de leur présenter l'Évangile du Dieu de la bénédiction. La vie chrétienne n'a jamais été à propos de l'absence d'épreuves, mais de sa présence dans nos épreuves. Amen. Et parfois, on fait l'erreur de rechercher ses présents au lieu de rechercher sa présence. Et je crois que beaucoup recherchent ses présents et en obtiennent peu, alors que d'autres recherchent sa présence et obtiennent les deux. Amen. Yes. Oh, on peut applaudir, let's go, parce que Dieu est bon. Dieu est bon. Il y a les deux dans sa présence. On obtient les deux. Et s'il y a bien un homme qui avait compris ça, c'était Salomon. Salomon était un homme brillant. Okay, de lui, on obtient le livre des Proverbes. Il était plein de sagesse. Et alors qu'il prend le royaume d'Israël, Dieu le rencontre, il parle avec Dieu et Dieu lui dit, que veux-tu que je te donne, Salomon ? Les richesses, qu'est-ce que tu veux ? Tu veux la plus belle femme de la terre ? Que veux-tu ? Il dit, non, Seigneur, ce que je veux, c'est ta sagesse pour diriger au mieux le peuple. Et Dieu dit, oh, waouh, parce que tu as demandé la sagesse, je te donnerai aussi la richesse. Qui veut prier pour la sagesse ce matin ? Oh oui, oh, il y a du monde spirituel ce matin. Le paradoxe, c'est que pour pouvoir nous offrir sa présence, Dieu a dû justement abandonner son fils à la croix et lui retirer sa présence. Alors que Jésus s'en va à la croix, il est sur la croix, il souffle le martyr. Matthieu 27, 46 nous dit, « Et vers la neuvième heure, Jésus s'écria d'une voix forte, « Eli, Eli, lama sabachthani » C'est-à-dire, « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et j'aime ce que dit Tommy Fallow, un pasteur protestant, il dit, « Il est permis d'affirmer que le cri terrible du juste qui cherche son père et qui ne le trouve pas marque le point culminant du supplice. Le fils est cru abandonné par le père. À force de vouloir sauver ceux qui vivaient loin de Dieu, il est devenu lui-même un sans-Dieu. Jamais Dieu, pourtant, n'avait été plus près du Christ qu'à cette heure de suprême obéissance. Mais il fallait que Jésus, pour vider jusqu'au fond la coupe arrière, se crût abandonné par le Père. » Je crois que la plus grande souffrance de Jésus sur la croix n'a pas été physique. Je crois qu'elle était morale, psychologique et spirituelle. Alors qu'il s'écrit « Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et remarquez, il ne dit pas « Pourquoi je souffre ?» Il n'a pas dit ça. Il ne dit pas « Pourquoi on m'insulte ? Pourquoi on se moque de moi ?» Pourquoi on me crache dessus ? Pourquoi vivre l'humiliation et la honte ? Hey, je suis le Fils de Dieu ! Et ça aurait été logique. Le Fils de Dieu qui est descendu du ciel, qui a laissé sa gloire pour être humilié sur la croix. À aucun moment il ne fait référence à ça. À aucun moment il ne se plaint. Il ne dit pas pourquoi toute cette injustice. Non, il dit Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné ? Jésus n'avait pas peur de perdre son confort. Il n'avait pas peur de perdre son honneur, il n'avait même pas peur de perdre sa vie. La plus grande peur de Jésus à ce moment-là, c'est qu'il ne voulait pas perdre ce qu'il avait de plus précieux, la présence de son Père. Nous devons saisir que la plus grande des bénédictions, c'est sa présence. Ça l'a toujours été, mes amis, et ce le sera toujours. C'est sa présence. Et si la plus grande des bénédictions de Dieu pour nous, c'est sa présence, la plus grande des bénédictions que nous pouvons offrir à ce monde, à nos amis, à nos familles, à nos collègues, à notre communauté, c'est notre présence. Ah, vous ne l'avez pas vu venir, celle-là. Il y en a, vous dites, je ne suis pas sûr, ça dépend qui. Mais si c'est sa présence, la bénédiction, alors notre présence est la bénédiction pour ce monde. Nous avons besoin de la présence des autres dans nos vies. D'ailleurs, Genèse 2,18 dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. » Je fais une petite parenthèse. Il ne parle pas de célibat ici. Il parle de solitude. Je crois qu'on peut être célibataire et très bien entouré, et je crois qu'on peut être marié en couple et être terriblement seul. Il parle de solitude. La pandémie nous a fait réaliser ce qui nous manquait vraiment, ce qui était précieux et vital. On est d'accord avec ça ? On a saisi, on a réalisé qu'on n'avait pas vraiment besoin d'aller au resto. On a réalisé que nous aussi, on était capable de cuisiner. On a réalisé qu'on n'avait pas besoin du dernier téléphone. On a réalisé qu'on n'avait pas besoin de nouveaux vêtements. On a réalisé qu'on n'avait pas besoin d'autant de bébelles dans nos vies. Ce dont on avait vraiment besoin, puis on l'a tous réalisé, c'est la présence des gens. partager des moments, discuter, manger ensemble autour d'un vin et fromage, se prendre dans les bras. Nous sommes rendus compte que c'était essentiel. Et Dieu nous appelle à être présents pour les gens autour de nous. Dieu t'appelle à être présent pour les gens autour de toi, peu importe où tu es. Dieu t'appelle à faire la différence là où tu es. Le peuple d'Israël est souvent passé à côté de la mission et de l'appel qui était sur lui. Le peuple d'Israël n'était pas censé être le peuple qui reçoit la bénédiction, il était censé être la bénédiction pour le monde. Et Dieu a fait le serment que toutes les familles de la terre seraient bénies à travers cette nation. Dieu a indiqué qu'il voulait qu'Israël soit un moyen unique de bénédiction pour le monde entier. Et l'Église est appelée à être la bénédiction pour le monde. Amen. Le peuple d'Israël est complètement passé à côté de sa destinée. Ils recherchaient la bénédiction de Dieu alors qu'ils étaient censés être la bénédiction pour le monde. Soyons la bénédiction autour de nous, mes amis. Soyons la bénédiction pour les gens qui sont autour de nous. Soyons la bénédiction pour notre conjoint, pour notre conjointe. Est-ce qu'on l'est vraiment? Est-ce que moi, je le suis vraiment? Et ce message, il est pour moi le premier. Soyons la bénédiction pour nos enfants, même lorsqu'ils ont plus de 30 ans. Parce que vous savez que quand ils déménagent, c'est vous qu'ils appellent. Soyons la bénédiction pour nos parents. Soyons la bénédiction pour nos amis. Soyons la bénédiction pour notre communauté. Est-ce que l'Église fait vraiment la différence? Est-ce que Nouvelle Vie Châteauguay fait la différence à Châteauguay? Est-ce qu'on est là pour les gens ou est-ce qu'on vient juste le dimanche écouter la bonne louange de Jérémy puis les bons messages de Florian? Si on a enlevé Nouvelle Vie Châteauguay de la map, est-ce qu'on verrait la différence ou pas? Soyons la différence, soyons présents. Soyons présents pour notre Église. Es-tu présent pour ton Église? Prends-tu ta place? Placeur, enfant, name it, il y a plein de choses. Accueil ou viens-tu juste t'asseoir puis recevoir? Es-tu présent pour ton Église? Pour aider Pasteur Florian? Il m'a donné $20 pour que je dise ça, je tiens à le préciser. Mais est-ce qu'on est présent? Soyons présents pour notre Église pour que d'autres découvrent sa présence. Plus on va être présent, plus d'autres vont pouvoir découvrir sa présence. On est plein ici. Je ne veux pas être oiseau de mauvais augure, mais je pense que deux réunions, ça pourrait arriver vite. Mais ça va prendre, on aura besoin de plus de monde, mais plus de monde qui vont permettre à l'autre de venir dans la maison de Dieu et découvrir sa présence. Amen. Yes. Soyons présents pour les moments qui comptent, comme les baptêmes, les mariages, les enterrements. C'est là que ça fait très souvent la différence. Pour les moments difficiles, pour les déménagements. Je me rappelle, Sœur Florian a déménagé, je suis allé l'aider. Et ce qui est bien, c'est que quand je l'ai appelé pour mon déménagement, il avait mal au dos. Vous la connaissez, vous? C'est pas vrai, c'est une joke, ok? C'est une joke. Père, est-ce qu'il y a des pères dans cette salle? Ouais? Vous voyez, les pères sont discrets. Ils veulent pas trop qu'on... Père, soyez présent pour vos enfants. Votre présence vaut plus que vos cadeaux. Anyway, ils ont déjà trop de jouets. Vous savez même plus où les mettre. Ok? Soyez présent pour vos enfants. Il y a des statistiques terrifiantes lorsque les pères sont absents. Il est dit dans un rapport de charisma.fr que les enfants de familles monoparentales risquent plus d'avoir des problèmes avec la justice. Les enfants sans père ont 15 fois plus de probabilité de finir en prison pendant leur adolescence. 70% des jeunes criminels dans des centres de correction pour jeunes viennent de foyers sans père. 85% des jeunes qui se trouvent en prison ont grandi sans père. 80% des violeurs motivés par la colère viennent de maisons sans père. Les enfants sans père ont 10 fois plus de probabilité de violer quelqu'un. Voici un rapport intéressant que j'ai vu qui a été fait au Québec sur l'engagement des pères. Les recherches concluent que la présence du père est un niveau significatif d'engagement. Ce n'est pas juste d'être là. Un niveau significatif d'engagement de sa part procure des bénéfices incontestables aux enfants. Leurs compétences cognitives et sociales sont meilleures, de même que leur estime personnelle et leur santé mentale. Ils ont des comportements plus positifs et moins de risques de mauvais traitements. À l'inverse, différentes recherches empiriques ont associé l'absence du père ou son faible niveau d'engagement à des symptômes dépressifs, à des troubles du comportement et à une faible estime de soi chez l'enfant. Laurent Mukieli, sociologue spécialisé dans la sociologie de la délinquance, dit « L'absence du père est bien un problème qui influence directement l'enfant. Il serait absurde de le nier. Mais ce n'est pas un cas qui se cantonne aux familles monoparentales. On évoque ainsi beaucoup la fin de l'autorité et d'aucuns font trop rapidement le lien avec le développement de la délinquance. Ce n'est pas l'émergence d'un nouveau rapport d'autorité entre l'enfant et ses parents qui est ici un facteur clé, mais bien l'absence de relation. Est-ce que vous avez des relations avec vos enfants? Est-ce que vous mettez de l'énergie là-dedans? L'absence de relation. Et ce que je trouve intéressant, c'est que j'ai vu une étude hallucinante de Harvard qui étudiait le développement adulte. Et ils ont étudié la vie de 724 hommes sur 75 ans. Sur 75 ans, ils ont étudié la vie de 724 hommes. Et ils ont étudié deux groupes. Un premier groupe qui était fraîchement diplômé de Harvard après la Seconde Guerre mondiale. Et le deuxième groupe était un groupe de garçons venant de quartiers les plus pauvres de Boston, okay, qui ont été spécifiquement choisis dans des familles à problèmes et désavantagées socialement, habitant dans des appartements beaucoup sans eau chaude ou même d'eau courante. Et alors qu'ils étaient ados, ils étaient interviewés et passaient des examens médicaux. Et ces ados ont grandi pour devenir des ouvriers, des avocats, des docteurs. Un même est devenu président des États-Unis. Certains ont développé de l'alcoolisme, d'autres de la schizophrénie. Certains ont gravi l'échelle sociale et d'autres ont fait tout le contraire. Les leçons tirées de l'étude après 75 ans de recherche ne portent ni sur la richesse, ni sur la célébrité, ni sur le travail. Voici la conclusion. Le message le plus évident qui ressort de cette étude est celui-ci. Les bonnes relations nous rendent plus heureux et en meilleure santé. C'est tout. C'est ça la conclusion de l'étude. Et c'est drôle parce que, en fait, l'étude nous dit que les connexions sociales sont très bonnes pour nous et la solitude tue. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Les personnes qui sont les plus connectées socialement à leur famille, leurs amis, leur communauté sont plus heureux, en meilleure forme physique et vivent plus longtemps. Et ça m'a fait sourire quand j'ai lu cette étude parce que je me suis dit « Ah, qu'il est doux, qu'il est agréable pour des frères, pour des sœurs de demeurer ensemble parce que c'est là que se trouve la bénédiction. » Des études entières prouvent que la parole de Dieu est vraie. Mes amis, lisez la parole de Dieu. C'est la parole de vie, littéralement. Tu es seul, tu as besoin de la présence de Dieu. Oui, viens les dimanches, mais fais partie d'un groupe aussi. Fais partie d'un groupe Nouvelle Vie. Inscris-toi. On a tous le pouvoir de répondre à l'appel de Dieu et d'être la bénédiction, de développer un ministère qui manque beaucoup à nos églises et qui n'est pas réservé aux pasteurs. Ça s'appelle le ministère de la présence. Le ministère de la présence, c'est juste d'être présent pour les gens. C'est juste d'être là. Vous savez, quand on commence ITF et on veut servir Dieu, on veut être pasteur, etc., on s'imagine, ouais, on va gagner les âmes, on va prêcher. Ça. J'ai remarqué avec le temps que ce qui changeait le plus les gens, c'est la rencontre que j'avais un à un avec eux. Et très souvent, pour des rencontres pastorales, de counseling pastoral, j'ai remarqué que moins je parlais, plus la personne était bénie. Et souvent, ça m'est arrivé des rencontres avec des gens où je n'ai pas parlé du tout de la rencontre. Et on termine la rencontre en disant, la personne me dit, et des situations des fois que honnêtement, je n'ai pas de solution, je ne sais pas quoi faire, et je l'écoute et je fais comme, je réfléchis et je prie, je fais, ouf, Seigneur, aide-moi, aide cette personne, parce que je suis dépassé. Ça vous est déjà arrivé d'être dépassé par des situations? Et souvent, je ne dis rien, et la personne parle, on prie, et à la fin, elle me dit, merci vraiment, pasteur, pour vos conseils, pour... Je n'ai pas parlé, je n'ai rien dit. J'ai juste été là pour la personne. Le ministère de la présence, et ça, ce n'est pas réservé aux pasteurs, vous n'avez pas besoin d'un diplôme en théologie pour le faire. Soyez présent pour les gens autour de vous, soyez présent pour les autres. C'est ça qui fait vraiment la différence. Soyons la présence, mais portons sa présence. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et à l'époque du peuple d'Israël, avant la venue de Jésus, la présence de Dieu résidait dans le temple, on est d'accord? Elle était dans le temple, et c'était un endroit qui pouvait être visité une seule fois par année par une seule personne et qui risquait de mourir. Si elle avait du péché dans sa vie. Si jamais elle mourait, on lui attachait une corde puis on la tirait comme ça. C'était excitant d'aller dans la présence de Dieu à l'époque. Mais ce qui arrive, c'est que alors que Jésus meurt à la croix, le voile qui nous séparait de la présence a été déchiré. Non seulement nous avons accès à sa présence, mais mieux que ça, nous sommes devenus le temple de sa présence. C'est fou quand on y pense. Et plus nous allons passer du temps dans sa présence, plus nous allons être excellent porteur de sa présence. Et vu qu'elle est disponible et gratuite, réclamons-la, réclamons-la, réclamons cette présence à Dieu. C'est notre héritage, réclamons la plus grande des bénédictions. J'aimerais inviter Jérémy à venir jouer ce matin alors que je termine. réclamant la bénédiction de Dieu. Moïse l'a réclamé. Moïse, alors que le peuple avait le courroux, Dieu a dit, écoute Moïse, je vais te laisser, je vais t'envoyer la bénédiction, je vais t'envoyer un ange, puis tu auras la victoire. Mais Moïse dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. Parce que Moïse ne voulait pas la bénédiction, il voulait plus que la bénédiction, il voulait le Dieu de la bénédiction. David l'a réclamé quand il dit, ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Saint-Esprit surtout. Il était capable de dire, un jour dans tes parvis vaut mieux que mille ailleurs. Parce qu'il avait goûté à la présence de Dieu. Et c'est pour ça que David était appelé un homme selon le cœur de Dieu. Pas parce qu'il était parfait ou qu'il ne péchait pas, mais parce qu'il était conscient de la bénédiction de la présence de Dieu dans sa vie. Moi, je réclame la bénédiction de Dieu dans ma vie, je réclame la présence de Dieu dans ma vie, parce que moi-même, j'en ai besoin. Pas parce que je suis spirituel, mais justement parce que je ne suis pas spirituel. J'ai besoin de la présence de Dieu dans ma vie. Réclamons sa présence. Réclame sa présence dans ta semaine, à chaque jour. Pas juste le dimanche matin. Réclame-la demain, mardi, jeudi, samedi. Réclame sa présence. Souvent, on ne réclame pas la bénédiction parce qu'on est trop occupé. On se dit qu'on est trop occupé. Mais la vérité, c'est qu'on a du temps pour ce qu'on veut. Vrai ? On a du temps pour ce qu'on veut. Prenons le temps. Vraiment. Peut-être certains vous dites, ouais, mais écoute, Stéphane, tu ne me connais pas en ce moment-là. Je suis tout croche, puis je pêche. Puis... C'est intéressant, j'étais au baptême la semaine dernière à Longueuil. Et il y a une jeune fille de 16 ans qui a compris un concept tellement puissant. Elle a dit, je croyais qu'il fallait que je m'éloigne du péché pour m'approcher de Dieu. Et j'ai réalisé que c'est quand je m'approchais de Dieu que je m'éloignais du péché. Peut-être que tu as du péché dans ta vie. Et Dieu dit, viens, viens, je suis là. Tout comme le fils prodigue. Il ouvre les bras, puis il t'accueille. Il t'accueille ce matin. Alors qu'on relit la parabole du fils prodigue, ce qui est intéressant, c'est qu'il pourrait blâmer ses fils, et avec raison. Ce qui est fou, c'est que dans les deux cas, les deux réactions, le père est là pour ses deux fils, il est présent pour ses deux fils. Il est présent pour eux, qu'ils se soient éloignés ou qu'ils se soient refroidis. Le fils qui était parti a décidé de réclamer la bénédiction et le père l'attendait déjà. Peut-être que tu ne connais pas Dieu ce matin, ou même que tu es loin de Dieu, que tu t'es éloigné. Je suis allé trop loin. Et Dieu t'ouvre les bras et t'offre avec joie la joie la plus grande des bénédictions, sa présence. Sa présence et son pardon. Ou peut-être que tu es le fils qui est resté dans la maison. Peut-être que ça fait 30 ans que tu es chrétien. Tu te dis, oh, moi, ça fait longtemps que je suis ici. Écoute, mais tu es là et tu te tiens loin même du péché. Tu te dis, oh, ça, c'est pas pour moi. Moi, je donne ma dîme, mes offrandes, je suis gentil, je suis généreux. Mais tu pourrais passer à côté de la plus grande des bénédictions qui est la présence de Dieu. Je ne sais pas combien de temps ça fait que tu es chrétien, mais Dieu t'appelle dans sa présence. Et il veut que tu sois là, il veut que tu réclames cette bénédiction. Ce matin, Dieu nous appelle à saisir et comprendre sa bénédiction. Pour être la bénédiction, et pour être la bénédiction, réclamons la bénédiction. Est-ce que ce matin, il y a tout un peuple à Nouvelle-Bichatonie qui dit « Moi, je la veux, la bénédiction. Je veux la présence de Dieu dans ma vie. » Pas juste dimanche, mais lundi, mardi, la semaine prochaine. Pour le reste de ma vie, je veux la bénédiction de Dieu. Parce que la vérité, mes amis, c'est que alors qu'on va aller au ciel, on sera dans sa présence totale. Et le paradis, mes amis, c'est rien d'autre que la présence de Dieu. Et il nous est possible de vivre le ciel sur la terre à tous les jours de notre vie, de vivre le paradis sur terre dans sa présence. Alors ce matin, j'aimerais juste nous inviter à nous lever et à rentrer dans la présence de Dieu, à réclamer notre héritage, à réclamer la présence de Dieu. Parce que Dieu veut nous la donner, Dieu veut nous bénir. Et dans sa présence, il y a la puissance. Il y a la puissance pour nous guérir, il y a la puissance pour nous toucher, il y a la puissance pour nous restaurer. Dieu veut nous faire du bien, veut faire des miracles dans sa présence. C'est dans sa présence que le miracle arrive. Alors ce matin, j'aimerais juste t'inviter à fermer tes yeux, à juste mettre ton focus, ton regard sur Jésus. Vous voyez, mais vous ne regardez pas. Tu peux venir à l'église, voir tout ce qui se passe, mais tu ne regardes pas. Regarde Jésus, regarde qui il est, regarde son sacrifice à la croix, regarde ses bras grands ouverts qui disent « Je t'aime et je t'attends dans ma présence. Viens réclamer ton héritage et ta bénédiction ce matin. » Alors ce matin, chantons, élevons nos voix et réclamons la plus grande des bénédictions.